Attention, 30 secondes avant départ. Vous n'oublierez pas, bien sûr, de diffuser du sourire.
La chronique de Gilles Labouroir. Le sport entre histoire et société.
Cette semaine, les chroniques de Gilles s'intéressent à l'histoire de la Ligue des Champions en football. La Ligue des Champions de l'UEFA, l'UEFA Champions League, parfois abrégée en C1, et anciennement dénommée Coupe des clubs champions européens de sa création en 1955 jusqu'en 1992, est une compétition annuelle de football organisée par l'Union des associations européennes de football, l'UEFA, et regroupant les meilleurs clubs du continent européen. Le vainqueur de la compétition est automatiquement qualifié pour l'édition suivante. Il participe également à la Supercoupe de l'UEFA, ainsi qu'à la Coupe intercontinentale de la FIFA et à la Coupe du monde des clubs de la FIFA. L'idée d'une Coupe d'Europe interclub est née dans l'esprit de journalistes parisiens. Les chocs entre un club anglais, Wolverhampton, et hongrois, Landvet de Budapest, puis Wolverhampton-Spartak de Moscou en décembre 1954, achèvent de les convaincre. En effet, après les victoires des Anglais, le Daily Mail proclame le club champion du monde des clubs. Gabriel Hanau, un journaliste de l'équipe, réplique dans son journal en lançant un appel à la fondation d'une Coupe d'Europe. Une série d'articles du quotidien sportif parisien explique des semaines durant les avantages d'une telle épreuve et les premières réactions sont plutôt positives. Dès le 16 décembre 1954, Jacques de Rijswijk signe un article présentant le projet de Coupe d'Europe Interclub. Devant les réactions positives de l'Europe entière, l'équipe rédige le 25 janvier 1955 un avant-projet de règlement signé par Jacques Ferrand. Le 3 février 1955, le quotidien L'Équipe publie la liste des clubs invités à disputer la première édition de l'épreuve et durant le mois de février, les clubs confirment leur participation. Le 26 février 1955, la FIFA contacte l'équipe pour lui confirmer que ses statuts n'empêchent pas l'organisation d'une telle compétition. L'organisation d'un pareil tournoi n'est pas subordonnée à l'autorisation préalable de la FIFA, dont les statuts, principalement l'article 38, ne visent que les compétitions entre diverses équipes représentatives nationales. L'UEFA vient à peine d'émerger des limbes et ses statuts sont quasi vierges. Le 1er mars 1955, le comité exécutif de l'UEFA se déclare inapte à assurer correctement l'organisation d'une telle épreuve et laisse à chaque fédération le libre choix d'accepter ou pas de prendre part à cette épreuve. On se retrousse alors les manches à l'équipe en s'occupant d'aller démarcher les fédérations. La Fédération française de football, par exemple, se laisse finalement convaincre malgré la délicate question de surcharge du calendrier. Chaque fédération doit désigner son représentant et la plupart d'entre elles ne désignent pas le champion en titre, mais font un choix par popularité du club, à condition que celui-ci ait déjà remporté au moins le championnat national une fois. Les 3 et 4 avril 1955, l'équipe réunit les dirigeants des clubs participants à Paris pour définir les dates de la compétition et leur faire approuver le règlement. Mais revirement de situation le 8 mai, alors que tout est bouclé avec 16 clubs partants, la désignation arbitraire des huitièmes de finale a même et déjà eu lieu, la FIFA sent le danger de laisser à des intervenants extérieurs la prise en main de compétition et pousse finalement l'UEFA à prendre en charge l'organisation de l'épreuve. La FIFA interdit même l'utilisation du mot « Europe » dans le nom de l'épreuve, désirant réserver ce terme aux compétitions entre équipes nationales. L'UEFA et la FIFA font le maximum pour décider les Anglais à participer, mais la fédération anglaise reste inflexible. Le Chelsea Football Club est partant, mais son forfait est rendu officiel le 26 juillet 1955. La Coupe des clubs champions européens connaît un immense succès dès sa première édition. Elle se joue alors en match aller-retour à l'exception de la finale. Après deux éditions de cette compétition, la Coupe latine, qui voyait s'affronter les champions d'Espagne, d'Italie, de France et du Portugal, prit beaucoup moins d'importance et fut finalement dissoute. En 1960, l'UEFA et la Confédération sud-américaine de football créent la Coupe intercontinentale qui voit s'opposer le vainqueur de la Coupe des clubs champions européens face à celui de la Copa Libertadores et où le gagnant se voit considéré comme le meilleur club du monde. Avec la mise en place de la Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe de football en 1960, puis de la Coupe UEFA en 1971, elle est alors parfois abrégée en C1, en référence au classement des trois compétitions européennes qui se déroula à cette époque. La première édition de la Coupe d'Europe des clubs champions européens voit s'opposer 16 grands clubs du continent, et parmi eux, 7 étaient les champions en titre de leur propre pays. Le premier match se tient le 4 septembre 1955 à Lisbonne, devant 30 000 spectateurs. Le Sporting Portugal et les Yougoslaves du Partizan Belgrade y font match nul 3-3. À la suite de la faible affluence des supporters du Stade de Reims lors du match face aux Danois de Aarhus en 8e de finale, seulement 6 000 spectateurs, le président du club champenois décide de jouer les matchs suivants au Parc des Princes. Un choix payant, puisque plus de 35 000 personnes assistent aux victoires de Reims lors des matchs aller du quart et de la demi-finale. Le Stade de Reims, emmené par son milieu offensif Raymond Kopa, accède à la finale le 18 avril 1956 en illuminant le Hibernian Football Club, club écossais, score cumulé 3-0. Pendant ce temps, le Real de Madrid s'impose en demi-finale contre l'AC Milan. La finale se déroule sur un match unique à Paris, le 13 juin 1956. Mené 2-0 puis 3-2 par le Stade de Reims, le Real de Madrid finit par s'imposer 4-3 à la suite d'une égalisation de Marquitos et un dernier but d'Hector Rial. Le spectacle est donc bien au rendez-vous et les clubs participants engrangent de larges bénéfices. La Coupe d'Europe des clubs champions augmente aussi les ventes du journal L'Équipe par rapport à l'année précédente de plus de 20%. À la suite du succès de la première édition, l'UEFA décide de s'investir davantage dans la compétition et exige que chaque fédération envoie son champion. Le Real de Madrid, bien que n'étant pas champion d'Espagne, a quand même pu participer en tant que tenant du titre. 5 nouvelles nations se joignent à la compétition, y compris les Anglais avec Manchester United. Avec 22 équipes partantes, un tour préliminaire est mis en place et un tirage au sort désigne les 12 clubs qui y participent. Les autres clubs rejoignent le Real de Madrid en 8e de finale. Le 30 mai 1957, la finale oppose le Real de Madrid aux Italiens de Fiorentina au stade de Santiago Bernabéu devant plus de 120 000 personnes. Les Madrilènes s'imposent 2-0 après un pénalty inscrit par Alfredo Di Stefano et une réalisation de Francisco Trento. Le trophée est remis au capitaine Miguel Munoz par le général Franco. Le Real de Madrid remporte également les 3 éditions suivantes, en 1958 contre l'AC Milan, en 1959 de nouveau contre le Stade de Reims et en 1960 contre l'Eintracht de Francfort, au terme d'une finale prolifique, 7-3, dans lesquelles Ferenc Puskás signe un quadruplé et Alfredo Di Stefano un triplé. Mais la domination du Real de Madrid prend fin en 1961. Cette année-là, le Benfica de Lisbonne joue sa première finale contre le FC Barcelone au stade du Varkov à Berne, en Suisse. Emmené par son capitaine et avant-centre, José Aguas, qui finira meilleur réalisateur de la compétition avec 11 buts, et par son meneur de jeu, Mario Coluna, les Portugais s'imposent 3-2. La saison suivante, en 1962, le Benfica joue sa deuxième finale contre l'ogre de la compétition, le Real de Madrid et ses stars Ferenc Puskás, Alfredo Di Stefano et Francisco Trento. Cette finale, qui a lieu au Stade Olympique d'Amsterdam, permet l'éclosion d'un tout jeune joueur qui inscrit un doublé, Eusebio, et voit le Benfica s'imposer sur le score de 5-3. En 1963, le Benfica atteint sa troisième finale consécutive. Malgré un but d'Eusebio, les Portugais s'inclineront 2-1 face à l'AC Milan. Puis, en 1964, c'est l'autre club de Milan, l'Inter de Milan, qui bat le Real de Madrid 3-1 et remporte le trophée. En 1965, le Benfica joue sa 4e finale en 5 éditions contre l'Inter de Milan qui remporte la finale pour la 2e fois de suite sur le score de 1-0. Enfin, en 1966, le Real de Madrid revient au premier plan et remporte sa 6e Coupe d'Europe. Un record face aux surprenants, les Yougoslaves partisans de Belgrade, 2-1. La première équipe non latine à remporter le trophée est le Celtic de Glasgow en 1967. Les Écossais battent en finale l'Inter de Milan, 2-1, avec une équipe composée exclusivement de joueurs nés à moins de 50 km de leur stade, le Celtic Park. Les Anglais de Manchester United leur succèdent l'année suivante, en 1968, en disposant également en finale d'un ancien double vainqueur de la décennie, le Benfica, sur le score de 4-1 après prolongation. Le deuxième succès de l'AC Milan, en 1969, est un peu le chant du cygne des équipes latines. Vainqueur de 12 des 14 premières éditions, il faudra attendre 16 ans avant que l'une d'elles, la Juventus, n'inscrive de nouveau son nom au palmarès. Le finaliste malheureux de cette édition, l'Ajax Amsterdam, préfigure la domination néerlandaise à venir. La victoire du Feyenoord Rotterdam face au Celtic de Glasgow en 1970 est suivie d'un triplé de l'Ajax Amsterdam. En 1971, l'équipe entraînée par Rinus Michels, qui prône un football total, assez révolutionnaire pour l'époque, s'impose contre les surprenants grecs du Panathinaikos 2-0. Le départ de Rinus Michels n'empêchera pas l'Ajax de conserver leur trophée l'année suivante. En 1972, en battant l'Inter de Milan grâce à un doublé de Johan Cruyff, puis en 1973, face à la Juventus, 1-0. Cependant, cette domination européenne s'arrête avec le départ ou la fin de carrière de ces joueurs cadres. Le triplé de l'Ajax d'Amsterdam, 71, 72, 73, est suivi de notre triplé, celui du Bayern de Munich de Franz Beckenbauer, Gerd Müller et du gardien Stebmayr, qui forme alors l'ossature de l'équipe nationale de la République fédérale d'Allemagne, champion d'Europe en 1972 et du monde en 1974. Le premier sacre des Bavarois, en 1974, a d'ailleurs failli ne pas avoir lieu. Le Bayern n'égalisant qu'à l'ultime minute de la prolongation lors de la finale contre l'Atlético de Madrid. La règle des tirs au but n'étant pas encore instaurée, la finale est rejouée le surlendemain. Ce sera le seul cas dans l'histoire de la compétition et le Bayern de Munich s'impose largement 4-0. Il s'impose de nouveau en 1975 contre Leeds United. Les exactions des supporters anglais lors de cette finale au Parc des Princes vaudront 3 ans de suspension européenne au club anglais. Les Allemands conserveront une nouvelle fois leur trophée en 1976 en battant l'AS Saint-Étienne 1-0 à Glasgow. Déjà vainqueur l'année précédente de la Coupe UEFA, le Liverpool Football Club bat en finale en 1977 les Allemands du Borussia Mönchengladbach sur le score de 3-1. Les Reds conservent leur trophée en 1978 face aux Belges du FC Bruges, mais, contrairement à ses deux prédécesseurs, Bayern et Ajax, ils ne réussissent pas la passe de 3. Ils sont éliminés dès le premier tour de l'édition 1978-1979 par un autre club anglais, Nottingham Forest. Promu de Division 2 l'année précédente, le surprenant champion anglais va jusqu'au bout et sacré face à un club suédois, Malmö, 1-0. Les hommes de Brian Clough, l'entraîneur de Nottingham Forest, conservent également leur titre européen en 1980 face à Hambourg. Le club entre ainsi dans l'histoire comme étant le seul à avoir été plus de fois champion d'Europe que champion national. En 1981, Liverpool récupère son bien en disposant du Real de Madrid en finale. Puis c'est une autre équipe anglaise, Aston Villa, qui lui succède l'année suivante, en 1982, en battant le Bayern de Munich. La série de 6 victoires consécutives des clubs anglais, un record, est brièvement interrompue par le sacre de Hambourg en 1983, aux dépens de la Juventus de Turin. Cependant, c'est Liverpool qui s'impose de nouveau en 1984 contre l'AS Roma, qui devient à l'occasion le premier club à être battu en finale sur son terrain. Cette finale est également la première qui se joue au tir au but et la série est marquée par la performance du gardien de Liverpool, Bruce Grobbelaar. Liverpool est de nouveau finaliste l'année suivante, en 1985, face à la Juventus, mais la domination anglaise est stoppée net par le drame du Heysel, où 39 personnes, la plupart italiens, trouvent la mort dans une bousculade avant le coup d'envoi de la finale. La victoire de la Juventus, 1-0 sur pénalty de Michel Platini, passe presque inaperçue. La remise de la coupe se faisant rapidement dans les vestiaires, sans cérémonial. À la suite de ce qui est le paroxysme des débordements des supporters anglais lors de leur déplacement sur le continent, l'UEFA exclut tous les clubs anglais des coupes européennes pour 5 ans et Liverpool pour une durée indéterminée. Aucun pays ne profitera durablement du bannissement des clubs anglais. Les vainqueurs des 3 éditions suivantes sont inédits. En 1996, le Steaua Bucarest, club roumain, devient le premier club de l'Est à l'emporter en battant à la surprise générale le Football Club de Barcelone au tir au but lors d'une séance où le gardien roumain Helmut Dukadan repousse les 4 tentatives catalanes. Lui succède le Football Club de Porto en 1987 et le PSV Eindhoven en 1988. Un seul ancien vainqueur s'imposera en cette période, emmené par son trio néerlandais Ruud Gullit, Marco van Basten, Frank Rijkaard. L'AS Milan d'Arrigo Sacchi signe un doublé en 1989 et 90. Le dernier vainqueur de la formule par élimination directe sera lui aussi inédit. L'Étoile Rouge de Belgrade remporte la coupe en 1991 en battant l'Olympique de Marseille au tir au but. L'année suivante, 1992, est une édition de transition. La coupe change de format et voit l'introduction d'une phase de poule après les huitièmes de finale. 2 poules de 4 équipes pour les 8 équipes restantes en lieu et place des quarts de finale et demi-finale. Et les vainqueurs de poule s'affrontant directement en finale. Cette dernière édition, sous l'appellation Coupe des clubs champions européens, voit le premier sacre du FC Barcelone qui s'impose face à la Sampdoria de Gênes après prolongation 1-0. Cette finale du club génois ouvre une série record de 7 finales consécutives d'un représentant italien pour 2 victoires seulement. En 1992, la Coupe est rebaptisée Ligue des Champions. Et depuis 1992, son format a régulièrement évolué. La phase de groupe à 8 équipes, apparue un an plus tôt, fut élargie à 16 équipes en 1994. La phase de groupe n'étant désormais précédé que par un ou plusieurs tours préliminaires, puis 24 équipes en 1997, et enfin 32 en 1999. Cette phase de groupe à 32 qualifiait les 2 premières équipes pour une seconde phase également disputée en groupe par les 16 équipes restantes. Mais depuis 1994, les quarts de finale suivaient alors 7 ou 6 phases de groupe. C'est en 2003, les huitièmes de finale ont fait leur retour en remplacement de la seconde phase de groupe, permettant ainsi un allègement du calendrier pour les équipes. 13 matchs au total au lieu de 17 pour les finalistes, hors éventuel tour de qualification. Historiquement, la compétition prenait le format d'une coupe où seuls les champions ou le tenant du titre participaient. Cependant, depuis 1997, les vice-champions nationaux des meilleurs pays peuvent y participer, suivi des 3e et 4e depuis 1999. En 1993, c'est le sacre d'un club français, l'Olympique de Marseille, qui bat en finale, le 26 mai 1993, l'AC Milan, 1-0 sur une tête de Basile Boli, juste avant la mi-temps. En 1994, l'AC Milan prend sa revanche et surclasse 4-0 le Football Club de Barcelone de Johan Cruyff, pourtant favori. L'année suivante, en 1995, alors qu'une phase de poule à 16 équipes est instaurée, l'AC Milan atteint la finale pour la 3e édition consécutive, mais s'incline face à l'Ajax Amsterdam 1-0, qui remporte le dernier titre d'un club néerlandais en Ligue des Champions à ce jour. En 1996, l'Ajax Amsterdam est encore finaliste face à une autre équipe italienne, la Juventus, qui s'impose au tir au but et remporte le trophée pour la seconde fois. En 1997, pour la 3e année consécutive, le tenant du titre se retrouve en finale et s'incline. En effet, cette année-là, le Borussia Dortmund remporte son premier titre en battant la Juventus, pourtant favorite, sur le score de 3-1. En 1997-98, 24 équipes prennent part à la compétition. les deuxièmes des 8 grands championnats étant autorisés à participer pour la première fois. En 1998, la Juventus atteint la finale pour la troisième année consécutive, mais s'incline face au Real de Madrid sur le score de 1-0. C'est le retour sur le devant de la scène du club madrilène, qui remporte son 7e trophée, 32 ans après son dernier sacre. En 1999, une autre équipe met fin à une longue disette, 31 ans. En finale, Manchester United, mené au score dès le début du match, inscrit 2 buts dans les arrêts de jeu pour renverser le Bayern de Munich. 2-1. Il s'agit du premier sacre d'un club anglais depuis le drame du Heysel en 1985. Le club de l'entraîneur Alex Ferguson remporte également le championnat et la Coupe d'Angleterre, s'offrant un triplé historique. En 1999-2000, 32 équipes participent à l'épreuve. Cette fois, les 3e et 4e des grands championnats intègrent la compétition qui se présente sous un format à 2 phases de groupe. Le Real de Madrid confirme en 2000 son retour au premier plan en gagnant la compétition pour la 8e fois. Emmené par Raúl Fernando Redondo, il défait le Valence Football sur le score de 3-0 à l'occasion de la première finale entre 2 équipes d'un même pays. L'année suivante, en 2001, le Bayern de Munich efface le traumatisme de 1999 en venant à bout de Valence, finaliste malheureux pour la 2e année consécutive, au tir au but, 5-4. Score du match 1-1, grâce notamment à une grande performance de son gardien, Oliver Kahn. Puis en 2002, le Real de Madrid, avec ses Galactiques, remporte son 3e titre en 5 ans en dominant le Bayern Leverkusen 2-1. En 2003, 3 clubs italiens sont présents en demi-finale avec le Real de Madrid. La finale oppose de nouveau 2 clubs d'un même pays, avec une affiche entre l'AC Milan et la Juventus de Turin. Le match très fermé se maintient à 0-0 après la prolongation. Les Milanais l'emportent finalement 3-2 au tir au but et glanent leur 6e trophée. Lors de l'édition 2003-2004, un nouveau changement de formule s'opère. La 2e phase de groupe est remplacée par des 8e de finale. Ce format, plus propice aux surprises et aux incertitudes, permet d'assister à l'une des finales les plus surprenantes de cette période, opposant en 2004 les Portugais du FC Porto aux Français de l'AS Monaco. Au terme d'un match à sens unique, les hommes de José Mourinho surclassent ceux de Didier Deschamps, vite privés de leur meneur de jeu, Ludovic Gioli, sur blessure, sur le score de 3-0. Le 25 mai 2005, au stade olympique Atatürk d'Istanbul, Liverpool remporte le 5e titre de son histoire face à l'AC Milan, au terme d'une incroyable renversement de situation. Menés 3-0 à la mi-temps, les Reds s'inscrivent 3 buts en 6 minutes avant l'heure de jeu, avant de résister aux nombreux assauts milanais pendant 60 minutes et de triompher au tir au but par 3-2. Dès 2006, Barcelone bat Arsenal en finale. En 2007, Liverpool et l'AC Milan se retrouvent pour un nouveau face-à-face, mais cette fois, c'est le club italien qui l'emporte 2-1, permettant à son capitaine emblématique, Paolo Maldini, de soulever son 5e trophée. L'année suivante, en 2008, voit une première finale 100% britannique avec la victoire de Manchester United sur le Chelsea. Les Red Devils et leur star, Cristiano Ronaldo, accèdent de nouveau en finale en 2009, mais se heurtent au FC Barcelone de Lionel Messi qui marque le but du 2-0. Champion d'Italie depuis 5 ans, l'Inter de Milan est de nouveau vainqueur de la C1 en 2010. 45 ans après son dernier succès dans cette compétition, en battant le Bayern de Munich 2-0. Puis, en 2011, on assiste à un remake de la finale de 2009, qui voit de nouveau un succès du club catalan face aux Mancuniens, 3-1. En 2012, 9 ans après le rachat du Chelsea Football Club par le milliardaire russe Roman Abramovich, qui marqua une nouvelle ère pour le club, les Blues décrochent enfin la C1, en battant le Bayern de Munich chez eux, à l'Allianz Arena. C'est la 5e défaite en finale du club allemand, qui ouvre pourtant le score à la 83e minute, mais les Anglais égalisent 2 minutes avant la fin du temps réglementaire, puis gagnent le match 4-3. Les Bavarois se rattrapent l'année suivante, en 2013, en remportant leur 5e trophée face au Borussia Dortmund, 2-1, première finale 100% allemand. En 2014, C'est la première finale qui oppose deux clubs d'une même ville, le Real de Madrid et l'Atlético de Madrid. L'Atlético ouvre le score à la 36e minute, mais les madrilènes du Real, les merengues, égalisent d'une tête de Sergio Ramos dans les arrêts de jeu. Le Real gagne finalement 4-1 en prolongation. C'est la 10e victoire, la décima, tant attendue du club de la capitale espagnole dans la compétition. L'année 2015 voit le retour au premier plan du Football Club de Barcelone, avec en face la Juventus qui revient 12 ans après sa dernière finale. Menant au score dès le début, le Barça l'emporte finalement 3-1 pour la 5e victoire de son histoire. En 2016, 2 ans après sa décima, le Real de Madrid, entraîné cette fois par Zinedine Zidane, l'emporte une nouvelle fois au détriment de l'Atlético de Madrid, de Diego Simeone. Dos à dos, 1-1 à l'issue du temps réglementaire, les réalistes madrilènes l'emportent finalement 5-3. Toujours en grande forme, le Real de Madrid se retrouve de nouveau en finale en 2017 face à la Juventus, finaliste malheureux 2 ans plus tôt. Les madrilènes s'imposent 4-1 face notamment à un doublé de Cristiano Ronaldo, devenant ainsi la première équipe à remporter la compétition 2 années consécutives depuis le passage au format Ligue des Champions. La qualification du Football Club de Barcelone contre le Paris Saint-Germain lors du 8e de finale retour, 6-1, le 8 mars 2017, constitue un record. C'est la première fois dans l'histoire des compétitions de l'UEFA qu'une équipe se qualifie pour le tour suivant malgré une défaite 4-0 lors du match aller. L'année suivante, en 2018, le Real de Madrid gagne une nouvelle fois la compétition en battant 3-1 le Liverpool de Jürgen Klopp et réalise ainsi le triplé, ce qui n'était plus arrivé depuis celui du Bayern de Munich de 1974 à 1976. Zinedine Zidane devient par ailleurs le premier entraîneur à remporter 3 fois de suite cette compétition. En 2019, 14 ans après le dernier titre acquis face à l'AC Milan lors du miracle d'Istanbul, Liverpool remporte la compétition face à Tottenham Hotspur, qui jouait sa première finale dans la compétition, dans une finale 100% anglaise, la 2e de l'histoire après celle de 2008, ayant vu la victoire de Manchester United sur Chelsea. Les hommes de Jürgen Klopp gagnent ainsi le 6e titre du club du nord de l'Angleterre. Cette édition voit notamment l'élimination surprise du Real Madrid, triple vainqueur et tenant du titre, dès les 8e de finale par l'Ajax Amsterdam. En 2020, cette année-là, on voit le Bayern de Munich remporter sa 6e Ligue des Champions, en gagnant tous ses matchs, une première dans la compétition, et réalisant ainsi le triplé championnat Coupe d'Europe Coupe Nationale. Le club allemand s'est imposé en finale face au Paris Saint-Germain, qui disputait la première finale de son histoire. En 2021, la finale oppose à nouveau 2 clubs de Première Ligue. En effet, Chelsea prend le dessus sur Manchester City 1-0, qui joue sa première finale de la compétition. En 2022, le Real de Madrid remporte son 14e trophée en s'imposant 1-0 en finale face au Liverpool au Stade de France. En 2023, Manchester City remporte sa première Ligue des Champions en s'imposant sur le score de 1-0 face à l'Inter Milan au Stade Olympique Atatürk d'Istanbul. En 2024, le Real de Madrid remporte son 15e trophée en remportant la finale contre le Borussia Dortmund sur le score de 2-0 au stade de Wembley. Et en 2025, cette année à Munich, le Paris Saint-Germain l'emporte 5-0 devant l'Inter de Milan. C'est le plus gros écart enregistré dans une finale de la compétition. Les buteurs parisiens, Achraf Hakimi, Désiré Doué, Karachi Kilouala et Mayuku. L'Espagne est donc le pays qui a gagné le plus de fois la compétition, 20 fois. L'Italie est le pays ayant échoué le plus de fois en finale, 17 fois. L'Angleterre détient le record de victoires consécutives en C1, 6. L'Angleterre est aussi le pays ayant gagné la compétition avec le plus grand nombre de clubs différents, 6. Manchester United, Liverpool, Nottingham Forest, Aston Villa, Chelsea et Manchester City. L'Angleterre est aussi le pays ayant fourni le plus grand nombre de clubs finalistes différents. 9. Manchester United, Leeds United, Liverpool, Nottingham Forest, Aston Villa, Arsenal, Chelsea, Tottenham Hotspur et Manchester City.
C'était la chronique de Gilles Labouroir, à retrouver en podcast sur le site d'Esprit Occitanie.